Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et bon début de semaine à l'écoute de VOA Afrique en direct du studio 13 ici à Washington. Bagassi Koura et Anne Alberson, bonjour Anne.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
À la une ce matin, Paris, la capitale française, a accueilli hier une manifestation historique contre le terrorisme.
Au Nigeria, au moins 5 morts hier dans un double attentat dans un marché bondé dans le nord-est du pays.
Une manifestation de l'opposition violemment dispersée hier à Kinshasa.
Nous voulons dire à la population pourquoi nous ne voulons pas du changement de la constitution, pourquoi nous ne voulons pas de la révision de la loi électorale.
Ce matin, réaction de manifestants mais aussi du gouvernement, mais avant le journal.
Manifestation historique contre le terrorisme hier donc à Paris. D'autres détails avec Idriss Fall.
Selon les organisateurs, plus d'un million de personnes ont participé à cette marche. Au moins 50 chefs d'État et de gouvernement ont battu le pavé parisien aux côtés de François Hollande, dont 6 chefs d'État africains, avec une présence remarquée du président palestinien Mahmoud Abbas à quelques mètres du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les familles des victimes étaient en tête du cortège. Près de 5500 policiers ont été mobilisés pour assurer la sécurité. 12 personnes ont été tuées mercredi dans l'attentat contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Une policière a été tuée le lendemain et 4 personnes sont mortes pendant la prise d'otage vendredi d'une supérette juive à Paris. Les auteurs de ces attaques, les frères Chérif et Saïd Kouassi et Amédi Koulibaly, ont été abattus par les forces françaises avant la fin de leur cavale vendredi. Ils ont dit avoir agi au nom d'Al-Qaïda et du groupe État islamique.
Un sommet pour la prévention des violences liées à l'extrémisme, c'est ce que compte organiser Washington le mois prochain. Le ministre américain de la Justice, Eric Holder, qui était ce dimanche à Paris, a annoncé que cette réunion aura lieu le 18 février.
Au Nigeria, au moins 5 morts hier dans un double attentat dans un marché bondé de Potiskum dans le nord-est du pays. Henri Francisque.
Les explosions ont eu lieu dans le marché très fréquenté de Kasuwar-Jagwal, à Potiskum, capitale économique de l'État du Yobe. Selon les sources sécuritaires et hospitalières, 5 personnes ont été tuées, dont les 2 femmes kamikazes. Samedi, dans cette même localité, un policier a été tué dans l'explosion d'une voiture piégée devant une station de police. Aussi, à Maiduguri, capitale de l'État de Borno, une autre attaque samedi a fait au moins 19 morts et 18 blessés. Une fillette de 10 ans a fait exploser une bombe dans un marché bondé. Ces attentats interviennent une semaine après les attaques meurtrières de Boko Haram contre des villages de pêcheurs sur les rives du lac Tchad dans l'état de Borno.
En RDC, une manifestation de l'opposition a été violemment dispersée hier à Kinshasa par la police. Un peu plus d'un millier de personnes ont répondu ce dimanche à l'appel de la plateforme Sauvons la RDC pour dire non à la révision de la loi électorale. Selon Martin Fayoulou, un des organisateurs de cette manifestation, 10 personnes ont été blessées, dont 4 grièvement. Parmi ces blessés, des militants, mais aussi des journalistes venus couvrir l'événement.
Mais ils ont déployé plus de 3000 personnes pour nous arrêter. Mais malgré cela, nos militants ont bravé la peur. Et aujourd'hui, nous disons simplement que le peuple congolais ne peut plus reculer. Nous allons continuer cette action. Parce que nous voulons dire à la population pourquoi nous ne voulons pas du changement de la Constitution. Pourquoi nous ne voulons pas de la révision de la loi électorale. Nous avons décidé au niveau des députés de l'opposition de boycotter toutes les séances qui vont traiter de la révision de la loi électorale.
Pour Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, l'opposition n'a pas suivi les voies légales.
L'opposition, pas l'opposition, la société civile, majorité, vous voulez occuper la rue, vous négociez avec les autres occupants qui sont représentés par les services municipaux, c'est-à-dire la police. C'est ça la règle. Quand vous ne faites pas ça, la police est en droit de vous empêcher, d'empêcher les autres d'utiliser la rue.
Voilà, c'était Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Ses propos ont été recueillis par Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa.
Nouveau gouvernement au Mali, la nouvelle équipe est composée de 29 membres contre 31 pour l'équipe sortante. 8 ministres ont été remerciés. Le point à Bamako avec Kassim Traoré.
Le nombre de femmes passe de 5 à 3. 4 ministres ont changé de département ministériel. Parmi les 6 entrants, il y a Choguel Kokala Maïga qui hérite de l'économie numérique, de la communication. Il est aussi porte-parole du gouvernement. Mamadou Igor Diarra va aux finances, alors que Mohamed Ag Erlaf signe son retour à l'environnement. l'environnement, Diarra Arakitala de la fonction publique, Barthélémy Togo de l'éducation nationale, Draman Damélé de l'urbanisme sont les nouveaux membres de ce gouvernement. Même s'il n'y a pas eu les changements souhaités, les Maliens ont apprécié le départ des ministres impliqués dans les surfacturations. Mamadou Koulibaly, juriste.
Les quatre ministres impliqués dans l'histoire des détournements ont quitté. Ça, c'est déjà une très bonne chose et ça va soigner l'image du pays à l'échelle internationale. Parce qu'en réalité, il faut reconnaître que le Mali avait perdu sa crédibilité sur le plan international. Hein.
Le premier conseil des ministres se tiendra dès le retour du président de la République de Paris qui a participé à la grande marche contre le terrorisme. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Mozambique, 56 personnes sont mortes et au moins 49 hospitalisées après avoir bu de la bière brassée à domicile et qui auraient été empoisonnées par la bile de crocodile. La police de la province de Tete affirme que la femme qui a fabriqué cette bière est parmi les morts. Selon la même police, un individu aurait glissé du poison dans la bière alors que les victimes assistaient à un enterrement. Des échantillons de l'alcool ont été envoyés pour des tests à Maputo, la capitale.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 62 personnes ont trouvé la mort ce dimanche au Pakistan dans l'accident d'un camion-citerne et d'un bus. D'après les autorités pakistanaises, le camion roulait en excès de vitesse sur le mauvais côté de la route lorsqu'il a heurté le bus près de la ville portuaire de Karachi dans le sud. Un responsable de la police a déclaré que la collision s'est produite le long d'un tronçon de route en mauvais état.
Des plongeurs indonésiens ont remonté ce matin à la surface l'une des deux boîtes noires contenant les paramètres de vol de l'avion d'Air Asia. C'est ce que rapportent les autorités citées par l'agence France-Presse. L'appareil s'est abîmé en mer de Java le 28 décembre avec 162 personnes à bord. Les plongeurs avaient localisé dimanche les boîtes noires à une trentaine de mètres de profondeur en mer de Java, enfouies autour des débris de fuselage de l'avion.
Les Haïtiens rendent hommage ce lundi aux victimes du séisme dévastateur de 2010 qui a ravagé le pays le plus pauvre du continent américain. 5 ans après la catastrophe qui a fait 300 000 morts et détruit Port-au-Prince, la capitale, le gouvernement haïtien a décrété la journée du 12 janvier, journée de réflexion et de commémoration, et le drapeau national sera mis en berne en signe de deuil. Par ailleurs, le président haïtien Michel Martelly et une vingtaine de dirigeants politiques ont signé hier soir un accord prévoyant la tenue d'élections en Haïti avant la fin de l'année 2015. C'est ce que rapporte l'AFP.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné le plus fermement possible hier les deux attentats suicides perpétrés samedi dans un café à Tripoli au Liban et qui ont fait 9 morts et 37 blessés. Dans une déclaration unanime, les 15 membres du Conseil de sécurité se déclarent scandalisés par cette attaque terroriste qui a été revendiquée par le front Al-Nusra.
Enfin, la cérémonie des 72e Golden Globes a eu lieu hier soir à Los Angeles. Le film russe Léviathan a remporté le prix du meilleur film étranger. Le Golden Globe de la meilleure comédie a été octroyé au film Grand Budapest Hotel de l'américain Wes Anderson. Boyhood, un film unique en son genre, tourné sur 12 ans avec les mêmes comédiens, a reçu le Golden Globe du meilleur film dramatique. L'acteur Michael Keaton a reçu le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie pour son interprétation dans Birdman et Richard Linklater, celui du meilleur réalisateur pour Boyhood. Le Britannique Eddie Redmayne et l'Américaine Julianne Moore ont remporté respectivement les Golden Globes du meilleur acteur et de la meilleure actrice dans un film dramatique.
C'est le temps de la Minute Éco pour tout savoir sur l'actualité économique en Afrique. Pour en parler ce matin dans ce studio, Nicolas Pinot. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Les prix du cacao ont grimpé la semaine dernière. Une bonne nouvelle pour les producteurs en Afrique de l'Ouest.
Le cacao échangé à New York a atteint son plus haut niveau depuis la fin octobre à 3,016 $ la tonne. Selon les analystes, les ventes de cacao du Ghana ont baissé de 23% d'une année sur l'autre à 430 000 tonnes. D'après des chiffres rapportés à Cocobod, l'organisme de régulation de la matière première au Ghana.
À quand la prochaine coupure d'électricité? La question se pose en Afrique du Sud.
La moindre défaillance d'une centrale risque de plonger le pays dans le noir, tant le réseau vieillissant fonctionne à la limite de ses capacités. Les Sud-Africains n'ont pas dû passer les fêtes à la bougie, mais la compagnie d'électricité Eskom a prévenu qu'elle pourrait à nouveau couper le courant avant la fin janvier, quand l'activité économique aura repris à la fin des grandes vacances d'été.
La bonne note du FMI à la Tunisie.
Oui, Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, s'est déclarée satisfaite des accomplissements de la Tunisie en matière de transition démocratique et politique. Fin décembre, l'institution internationale a approuvé le versement de 105 millions de dollars dans le cadre d'un plan de soutien d'$1,750 milliards au gouvernement tunisien.
Merci Nicolas. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique, c'est l'heure des sports. Et on retrouve Élisée Mpatine à Boïcon au Bénin. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour Bagassi.
Préparatif de la CAN 2015, la Côte d'Ivoire a battu le Nigeria en match amical.
Et c'est sur le score de 1-0 que la Côte d'Ivoire a eu raison du Nigeria. Pour leur premier match de préparation en vue de la CAN, les Ivoiriens n'ont pas trop convaincu. Ils ont réussi à trouver le chemin des filets grâce à Salomon Kalou sur un service de Cheick Tiote. Les éléphants vont devoir assurer face à la Suède jeudi prochain.
La Tunisie et l'Algérie s'affrontaient à Rades.
Pour une belle affiche et le spectacle était au rendez-vous. Les Fenech ont pris l'avantage à la 39e minute de jeu grâce à Yacine Kadamouro. La réaction des Aigles de Carthage ne s'est fait pas attendre. Wabi Kazri rétablit la parité à une minute de la fin de la première partie. Score final donc 1-0 entre deux belles formations très attendues durant cette CAN.
D'autres rencontres amicales en vue de cette compétition ont eu lieu ce week-end.
Effectivement Bagassi, le Congo Brazza s'est incliné à Dakar au Sénégal face au Cap-Vert. Après avoir mené 2-0, les Diables Rouges se sont finalement inclinés sur la marque de 3-2. Le Burkina Faso a battu le Swaziland 5-1. Les étalons qui se préparent en Afrique du Sud avant de gagner la Guinée équatoriale livreront ce mardi à Nesprut un autre match amical face au Botswana. La Guinée-Conakry démarre également fort sa préparation en infligeant un cinglant 4-1 à la sélection olympique du Maroc. L'attaquant de l'Olympique lyonnais Mohamed Yatara s'est illustré en marquant le 4e but de son équipe. Le Sili national doit encore affronter le Sénégal à Casablanca avant de s'envoler pour la Guinée équatoriale. La sélection dirigée par Michel Dessuet jouera cette CAN dans le groupe D en compagnie de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Cameroun. Et le Cameroun justement qui était tenu en échec par l'Afrique du Sud à Libreville pour son dernier match de préparation. Score final 1-0. Sibou Sissou Vilakazi a répondu à Vincent Aboubakar. A noter que l'Afrique du Sud affrontera le Mali mercredi prochain, toujours à Libreville.
Élisée, parlons de l'Afrique du Sud pour annoncer le forfait de l'un de ses défenseurs.
Oui, Bagassi, il s'agit de Patrick Fungwayo. Le joueur d'Orlando Pirates, blessé au genou, ne participera pas à cette CAN qui démarre le 17 prochain. Il sera remplacé par son coéquipier en club, Nzikaïsé Machaba. Placé dans le groupe C, l'Afrique du Sud va affronter l'Algérie, le Ghana et le Sénégal.
En attendant la CAN, la Coupe d'Asie des Nations a démarré ce samedi.
Et c'est la première fois que l'Australie organise cette compétition depuis son entrée en 2006 dans la Confédération. Une entrée d'ailleurs réussie, une nette victoire de 4-1 face au Koweït en ouverture de la 16e édition de cette compétition. Dans ce même groupe, service minimum pour la Corée du Sud 1-0 face à Oman. Dans le groupe B, l'Ouzbékistan et la Chine ont eu respectivement raison de la Corée du Nord et de l'Arabie Saoudite sur le même score 1-0. L'Iran et les Émirats Arabes Unis impressionnent eux aussi pour leur entrée en lice dans le groupe C. L'Iran, déjà vainqueur à 3 reprises de cette compétition, a battu le Bahreïn 2-0 alors que les Émirats Arabes Unis ont dominé de leur côté le Qatar 4-1. La compétition se poursuit aujourd'hui avec les deux derniers matchs du premier tour. Et pour sa première participation à une phase finale d'une compétition, l'équipe de Palestine sera face au tenant du titre, le Japon. Et la Jordanie joue l'Irak. À présent, Bagassi, je vous laisse donner les résultats des matchs joués cette nuit en NBA.
Oui, très peu de chance hier soir pour Washington face à Atlanta. Défaite de la capitale 120-89. Miami se relance face aux Clippers de Los Angeles 104-90. Memphis a battu Phoenix 122-110 et Cleveland a perdu face au Sacramento Kings 103-84.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, de retour avec vous, Bagassi Koura pour Le Monde. Aujourd'hui, il est 6h15 en temps universel. Cette bonne nouvelle du Bénin, fin de l'épidémie de la fièvre hémorragique due au virus Lassa, un virus voisin du virus Ebola. Après la période d'incubation, plus aucun autre cas n'a été enregistré dans le pays. Du coup, les autorités sanitaires ont conclu que c'était la fin du virus sur toute l'étendue du territoire béninois. Une annonce qui ne rassure pas tout le monde, le reportage de Peggy Ludovic Dagba de Cotonou.
Le virus Lassa qui a fait irruption au Bénin en fin d'année 2014 par le nord en faisant des morts à l'hôpital Saint-Jean de Dieu de Tongueta a été totalement éradiqué du Bénin. C'est la ministre béninoise de la Santé qui l'a déclaré en cours de semaine écoulée. Dorothée Akoko-Kendegazar.
Conformément au règlement sanitaire international qui recommande l'observance d'une période de 2 fois 21 jours sans enregistrement de nouveaux cas, je déclare ce jour, 8 janvier 2015, la fin de l'épidémie de la fièvre de Lassa dans la commune de Tangueta et de Kobli. Le gouvernement, par ma voix, présente une fois encore ses condoléances à toutes les familles éplorées. Je saisis cette occasion pour remercier tous les partenaires qui nous ont apporté leur appui dans la riposte contre cette épidémie. La fin de l'épidémie que j'annonce ce jour ne signifie pas cependant que nous devons baisser la garde face aux fièvres hémorragiques virales en général et à la maladie à virus Ebola en particulier. J'invite en conséquence toute la population béninoise à continuer à observer toutes les mesures d'hygiène élémentaire, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, et à éviter de toucher ou de consommer des animaux sauvages.
Malgré la bonne nouvelle, la vigilance doit demeurer comme le recommande la ministre. Et c'est aussi l'avis des Béninois qui ne sont pas pour autant rassurés, même si certains parmi eux sont quand même contents.
Elle est ministre et puis je pense qu'elle a des services un peu partout sur le territoire béninois. Peut-être que après les sondages qu'elle a eu, elle a fait cette déclaration. C'est une dame responsable à ce que je sache.
Moi, je ne suis pas rassuré. J'ai toujours peur. Comment on peut nous rassurer que c'est parti? Est-ce qu'on a fouillé de fond en comble le Bénin pour voir si c'est vraiment parti? C'est pas parti. Je ne suis pas sûr.
Vraiment, c'est étonnant parce que un virus qui vient d'entrer dans un pays et on ne sait pas quelle alchimie, la santé a su gérer ce virus pour dire que bon, aujourd'hui, le ministre vient de passer l'information telle que le virus n'existe pas. En tout cas, moi, à mon avis, je ne suis pas sûr. Peut-être que c'est une déclaration pour que la population n'ait pas peur.
Le Bénin est désormais hors de portée du Lassa. Mais pour combien de temps? Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour La Voix de l'Amérique.
Congo-Brazzaville, les autorités poursuivent la prévention contre Ebola, la fièvre virale hémorragique qui a déjà fait plus de 7000 morts en Afrique. Aucun cas n'a encore été déclaré dans ce pays, mais le gouvernement renforce son appel au fond à l'endroit des sociétés publiques et privées afin qu'elles contribuent dans la sensibilisation des populations sur cette maladie. Des détails à Brazzaville avec notre correspondant Nguela Ngusso.
Les zéro cas d'Ebola jusqu'à ce jour ne laissent pas inactives les autorités du Congo-Brazzaville qui recherchent de l'argent pour financer principalement la sensibilisation de la population sur cette épidémie. Le professeur Obengi, responsable de la gestion des épidémies au ministère de la Santé, affirme même que le Congo-Brazzaville demeure un pays à risque.
C'est toujours une menace. La menace peut venir soit de l'extérieur ou bien la maladie peut éclater localement. Vous savez que nous avons déjà vécu des épisodes, donc elle n'est pas toujours à l'abri. Donc avec les mouvements de la population, les Congolais qui vont dans ces pays ou bien les habitants de ces pays, bref, tous ces échanges-là font que nous sommes toujours sous la menace. Donc on a intérêt toujours à redoubler de vigilance. Ici, l'accent est beaucoup plus mis sur la sensibilisation de la population, mais mais pour les voir à grande échelle, il faut effectivement des moyens.
Il y a quelques semaines, les sociétés de téléphonie mobile, notamment Airtel et MTN Congo, ont boité les pas à la Chine qui avait fait don de matériel sanitaire et de sensibilisation. Le week-end dernier, la Société nationale des pétroles du Congo a apporté 100 millions de francs CFA, environ 200 000 dollars. Pascal Itoua Oyona est le secrétaire général de la fondation SNPC.
À l'égard de l'action que nous sommes amenés à entreprendre dans ce moment, l'apport de la Fondation SNPC dans ce cadre-là est de 102 millions pour que cette contribution soit de manière très efficace et opérationnelle, utile à nos populations qui sont une véritable passion pour nous.
Au centre de la gestion du pont de l'Iposte contre Ebola, le bureau de l'UNICEF à Brazzaville annonce pour prochainement l'organisation des simulations grandeur nature afin d'aguerrir le personnel sanitaire si jamais un cas d'Ebola venait à être détecté au Congo. Le représentant de l'UNICEF, Aloïse Kamouragiye.
Cette contribution financière de SNPC va servir non seulement pour soutenir la mise en œuvre des activités de prévention, de communication, mais aussi tout ce qui est formation sur la prise en charge des cas de maladies à virus Ebola, y compris même des simulations qui vont être faites. Une simulation grandeur nature, et là, ça va permettre au Congo de tester réellement tout le dispositif à tous les niveaux.
Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Lutte contre le virus Ebola. VOA Afrique se mobilise. Rejoignez-nous sur WhatsApp. C'est simple, ouvrez l'application smartphone WhatsApp et envoyez Ebola au numéro suivant 1 202 257 35 83. Je répète, 1 202 257 35 83. Vous recevrez des infos et des conseils de prévention contre le virus. Restez informés, VOA Afrique.
Au Cameroun, la question de Boko Haram divise les Camerounais. Ils ne s'accordent pas sur l'identité des auteurs des attaques. Compte rendu de Jules Elobo.
L'identité réelle des auteurs des attaques perpétrées dans l'extrême nord du Cameroun ne fait toujours pas l'unanimité au sein de l'opinion camerounaise. La thèse d'un complot contre le pouvoir de Yaoundé est régulièrement évoquée. Biloua Ayissi, ancien commissaire de police.
Il y a des gens au nord qui ont décidé de prendre le pouvoir par la rébellion. Comme ça se passe en ce moment, on vous dit on reconnaît les rebelles du Cameroun et la communauté internationale va fournir des armes. Même en barrant la frontière avec le Nigeria, on ne va pas arrêter les attaques.
Pour bon nombre de Camerounais et d'observateurs, les exactions commises dans le septentrion sont l'œuvre des islamistes de Boko Haram. Angelbert et Somba Bongono.
La piste de la rébellion nous envoie un peu en brousse. Parce que jusqu'ici, nous n'avons pas tous les éléments objectifs d'une vraie rébellion qui veut le pouvoir. Nous avons affaire à des gens qui peuvent commettre, comme il dit, sur le pont de Maroua. Vous savez, des actions isolées ne sont pas exclues. C'est pour cela précisément que la loi sur l'antiterrorisme a pris soin de préciser que on n'a pas besoin d'être 10 pour faire une action terroriste. Dès que vous commettez une action de type terroriste, même si vous êtes seul, on appelle ça entreprise individuelle, en relation avec une activité terroriste, vous pouvez être condamné.
Le débat qui a cours aujourd'hui au Cameroun a prêté le flanc aux rumeurs et autres supputations. Pourtant, les spécialistes des questions de sécurité sont clairs. Martial Ongba, géostratège.
Boko Haram fait partie de ce qu'on appelle des menaces polymoléculaires diffuses. C'est un type de menace qui peut se réduire à la plus petite unité, deux, trois éléments qui opèrent et qui produisent des effets de portée majeure. De deux, Boko Haram est une menace transnationale. C'est-à-dire que vous pouvez régler le problème du côté camerounais s'il n'y a pas de solution du côté nigérian. Eh bien, le problème va perdurer.
Malgré l'ampleur que prend la guerre contre Boko Haram sur le terrain, les Camerounais, eux, restent divisés sur l'identité réelle de ceux qui sèment la terreur dans la partie nord du Cameroun. Yaoundé, Jules Elobo, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Cameroun, sur Océan FM, à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham, à Bafoussam.
Voilà, on passe à la page musicale avec Roger Muntu. Bonjour Roger.
Bonjour Bagassi. Ce matin, nous écoutons Mewey de son vrai nom, Frédéric Ewi. Mewey est un artiste, musicien, auteur, compositeur, interprète, arrangeur, producteur et réalisateur ivoirien. Hein. Trop de talent ce monsieur. On l'écoute dans Rouler Moutou.
Rouler Moutou. Rouler Moutou.
Akobla duwe bien kuoye On iso blazomi Mwanzi bia nende kwa kak Blama e wa iloye Aide nba me mba za wo Oh, bawa se tabla Oh, bawa yon tabla Jazu ba zi anwe ya ya Jazu ba zi anwe ya ya Jazu ba zi anwe ya ya Jazu ba zi anwe ya ya
Roule moutou Roule moutou.
Alors Roger, on se rappellera toujours de son style musical, hein, le zoblazo, qui faisait bouger toutes les boîtes de nuit, les fêtes.
Oui, Bagassi, un style qui lui a rendu très populaire hein, tout au long de sa carrière. N'oublions pas aussi que Mewey est le roi des pistes des danses africaines avec sa danse des mouchoirs, rythme issu du sud de la Côte d'Ivoire, nous a-t-il confié dans le RM Show, notre émission interactive, Bagassi.
Mewey dans Roule Moutou. Merci Roger.
Mais c'est moi qui vous dis merci Bagassi. Nos salutations ce matin vont à tous nos auditeurs qui nous suivent sur Omega FM à Ouaga.
Retrouvez Roger Moutou dans le RM Show chaque jour à partir de 20h, temps universel. S'achève notre émission Le Monde aujourd'hui. Merci de votre fidélité en votre compagnie ce matin. C'était Anne Alberson et moi-même Bagassi Koura. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique.
Dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.